session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 3 juillet 96, première conférence.
On a dit que le cours d'hier soir était difficile, je le sais. Vous comprenez que ce qui constitue la philosophie réaliste, c'est de remonter du visible à l'invisible. La montée jusqu'à l'Himalaya, je ne l'ai pas faite, mais j'ai vu des gens qui l'avaient fait. Ce n'est pas commode. Or, l'induction depuis Thomas d'Aquin, elle est perdue. Alors c'est pas commode de la retrouver. Il y a bien l'induction de Bacon. Il y a bien l'induction qu'on fait quand on tâte le terrain pour savoir à peu près comment sera le vote. On fait une induction. On prend quelques individus, comme ça, tape dans le temps, avec beaucoup d'attention, c'est très réfléchi. Ça ne se fait pas du tout comme un coup de filet. Puis à partir de là, on induit. Il y aura ce pourcentage, c'est une induction. Mais c'est une induction quantitative. L'induction d'Aristote est une induction qualitative. Et elle est soutenue par ce qu'on appelle l'analogie. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous, parce que c'est la correction radicale de notre intelligence qui d'habitude descend le fleuve selon son conditionnement. Et là, au contraire, on remonte à la source. Et c'est ça l'induction, c'est remonter à la source. Certains poissons très extraordinaires, hein, qui ont une très bonne chair, remontent à la source. Il n'y a que là où ils sont féconds. Je trouve ça admirable. Remonter à la source. C'est dépasser le conditionnement habituel, quantitatif, et redécouvrir l'aspect qualitatif, et remonter à la source. Et là, il y a une fécondité spirituelle. L'intelligence commence à s'ouvrir. Certains rayons de soleil pour que certaines fleurs s'ouvrent. La nuit, elles sont fermées, pieusement fermées. Et au contraire, en face du soleil, ça s'ouvre. La source, c'est ça. Vous avez déjà découvert une source, vous n'avez pas encore découvert de source. De source au niveau physique. C'est difficile pour vous de comprendre. Alors, hélas, ici, il n'y en a pas. Certaines propriétés, il y en a. Vous savez bien, à Montmorin, il y en a 3 ou 4. C'est du reste pour ça qu'on envoie les ermites là. Parce que les ermites doivent être des hommes qui vivent tout le temps à la source. Autrement, c'est très ennuyeux. On vous envoie à Montmorin, vous devez remonter à la source. Alors profitez d'aller voir quelques sources d'ordre géographique pour vous dire, tiens, je n'avais pas compris. C'est intéressant d'avoir une source. Parce que vous remontez. Et il y a un moment, si vous continuez de remonter, vous quittez la source. Face au-dessus. Et la source ne crie pas, elle reste silencieuse. Alors, surprenant, parce que je voudrais que vous compreniez. Et je voudrais que vous fassiez vous-même ce chemin. Autrement, ça ne sert à rien. On accumule des formules, des propositions, on n'a rien compris. La philosophie, ça s'apprend, ça s'éduque, ça se développe en faisant soi-même la démarche. Si vous n'essayez pas de faire vous-même cette démarche inductive, ça ne sert à rien. Voyez, une inspiration artistique, c'est une induction qualitative. Vous avez vu des quantités de choses, des expériences. L'artiste a besoin de temps en temps de changer de cadre, de voir une nature très différente, de voir des physionomies tout autres, de voir des physionomies angéliques. Un noviciat, c'est angélique. Et à partir du noviciat, il dit « Ah, il doit y avoir quand même des anges. Pourquoi je n'aurais pas ces types-là ? Vous induisez les anges. » Vous voyez, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour vous donner une image. Parce que c'est beaucoup plus sérieux, l'induction philosophique. Pas l'aspect de l'inspiration artistique. Les vrais artistes, ils se recueillent à partir d'une quantité d'expérience. Et de là, il y a quelque chose qui jaillit. Ou qui ne jaillit pas. Vous ne commandez pas votre inspiration. Mais si vous êtes très attentif, vous comprenez très bien cette différence des diverses expériences que vous avez vues, que vous retenez en vous, puis subitement, au-delà de ces expériences, il y a quelque chose, une étincelle. Alors vous dites une étincelle, de l'autre côté une source. C'est pas la même chose, et c'est pourtant la même chose. Vous dépassez le multiple pour découvrir l'un. C'est ça. Le multiple réclame l'un. Le multiple réclame une source, un principe. Si vous prenez ça quantitativement, il y a bien la découverte d'un premier, mais un premier extérieur. L'induction quantitative de Bacon découvre un premier extérieur. L'induction qualitative remonte à la source, non pas extérieure, mais présente. Et c'est ça qui est si curieux. L'âme, si elle existe, elle est présente à toutes mes activités vitales. Elle prend des physionomies différentes. Il y a la physionomie de l'âme végétative. Alors là, c'est terriblement accaparant. Il n'y a qu'à regarder le petit déjeuner du matin, c'est extraordinaire, hein, pour comprendre comment tous ces moines très pieux, 5 minutes avant, se précipitent auprès d'une brioche, parce que c'est ça qui est excellent. Et alors, c'est un accaparement. Alors qu'ils étaient angéliques il y a quelques minutes, ils ne le sont plus du tout. Ils sont tombés dans la grosse matière. C'est curieux, ça. Et c'est vrai qu'il y a une âme végétative. Et elle est présente quand vous mangez. Il y a une âme affective, passionnelle. Elle a 11 visages. Pouh là là, 11 visages. Il y a le désir, il y a la tristesse, il y a la haine noire. Et mon âme est présente dans tout ça. C'est mon âme à travers tout ça. Mais je veux la découvrir. dans sa source, dans le jaillissement premier. Et puis il y a la pensée, il y a une âme intellectuelle. Vous voyez, ces expériences que nous faisons de nous-mêmes, nous pouvons les faire d'une manière très extérieure. Oui, c'est vrai, j'ai mangé ce matin. Au bout d'un certain temps, j'aurai faim. Je recommencerai. Mais je ne réfléchis pas. Normalement, je ne réfléchis pas beaucoup quand je mange, parce que si je réfléchis trop en mangeant, ça s'arrête, hein, la digestion. Il y a quelque chose qui ne va plus. Je ne réfléchis pas non plus beaucoup quand je suis en colère. Quand je suis passionné, je réfléchis quand même. Je sais ce que c'est que d'être passionné. Heureusement. Et puis, il y a la cogitance. Je cogite, je pense. Je peux très bien être présent dans toutes ces expériences. Être présent. Et au fond, je suis présent quand l'expérience que je fais, vitale, étant immanente, je peux la saisir de l'intérieur. C'est là l'immense avantage de mes expériences vitales, c'est que je peux les saisir de l'intérieur. Alors à ce moment-là, vous voyez, l'oméga et l'alpha se tiennent, puisque toutes mes opérations vitales sont immanentes. Le point de départ et le terme se tiennent. Et alors à ce moment-là, je comprends l'aspect qualitatif de ma pensée, de mes expériences vitales. Et cet aspect qualitatif de la vie qui me permet de faire que ces expériences ont une certaine profondeur. Je suis présent. C'est moi. C'est pas un étranger, c'est moi. Évidemment, dans mon expérience que j'ai du petit déjeuner du matin, même très engagé dans cette expérience. Je vois que c'est une expérience nécessaire pour pouvoir tenir la journée. Il faut quand même avoir un petit déjeuner quand je ne l'ai pas. Sauf si je suis très très habitué à me priver du petit déjeuner le matin. Parce qu'on peut s'en priver. Il y a quelque chose qui va moins bien. Parce que je ne suis pas aussi présent, ça me réveille. Il y a des personnes qui ne peuvent être éveillées que s'ils ont pris un petit café le matin, avant l'oraison. C'est pas l'oraison qui les réveille, c'est le petit déjeuner, c'est curieux, c'est le café. Ben, ça peut être comme ça, je respecte ce conditionnement. Il faut le respecter, ce conditionnement. Parce que c'est pas commun dans la vie végétative de changer certaines choses, de modifier certaines choses. On devient très vite vieux garçon et vieille fille comme le petit chien. C'est si l'heure, hein. Et si le repas n'est pas là, on aboie. Vous avez remarqué ça, c'est très curieux. Quand il y a une petite erreur d'aiguillage, hein, parce qu'il y a un changement, alors le café arrive 5 minutes en retard. Alors le beurre arrive 5 minutes en retard, c'est invraisemblable. Hein. Et on voit tout le monde en colère. Comme ils sont religieux, ça ne se montre pas. Comme ils sont dans une maison religieuse, ça ne se dit pas. Mais on sent. Vous voyez, l'expérience profonde décèle la présence de quelque chose. Dans mon expérience, il y a une présence. Évidemment, pour des choses secondaires, cette présence est beaucoup moins forte. Mais quand il s'agit de contempler, il y a une présence. Si je suis engagé, quand il s'agit d'aimer, d'un amour d'amitié spirituelle, je suis engagé. Cette expérience implique une présence. C'est ça l'aspect qualitatif des expériences. de ces expériences en les décrivant, comme si j'étais un étranger. Et les gens diraient, c'est comme ça que vous êtes objectif. Mais non. Quand on vit, on est objectif quand on est engagé. C'est curieux. Parce que tant que vous n'êtes pas engagé, vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Ce qu'on dit habituellement, c'est la différence d'être spectateur et d'être celui qui coopère. Le spectateur regarde ça. Vous êtes spectateur d'un accident. Et vous regardez. Et puis quelqu'un qui est l'ami de celui qui est accidenté dit, vous avez vu l'accident? Ah oui, je l'ai vu. Est-ce que vous acceptez de témoigner? Ah non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais la différence, le spectateur est celui qui témoigne. La vie ne se comprend que quand on est soi-même témoin de la vie. Comment voulez-vous expérimenter une opération vitale si vous n'êtes pas un grand vivant? Si vous êtes un petit vivant, un spectateur, qui ne s'engage jamais. Au nom de l'objectivité, c'est ça le comble. Vous voulez témoigner de la vie et vous vous mettez dans des conditions où vous ne pouvez plus témoigner de la vie. Notre monde devient comme ça. Un monde uniquement. On représente les choses, mais on ne s'engage pas. Alors que l'amour ne peut être compris que dans l'engagement. Puisque l'amour, c'est un don. Et donc, tant qu'on n'a pas l'expérience de ce don, on ne sait pas ce que c'est. Alors, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça que je... C'est pour ça que je reviens. Parce que j'ai peur que vous étiez spectateur de l'induction. Et seulement spectateur de l'induction. Et que vous ne vous engagiez pas dans votre intelligence, dans votre désir de vérité. L'induction, c'est un appel de l'intelligence à aller plus loin, à ne pas rester engagé dans la matière, dans le conditionnement. C'est un appel intérieur. C'est pour ça qu'il y a une interrogation. Or, l'induction ne peut se faire que grâce à l'interrogation. S'il n'y a pas une interrogation, il n'y a pas d'induction. On n'avance pas. L'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'âme? Est-ce que l'âme existe? C'est ça l'interrogation. Si vous n'avez pas d'interrogation, vous ne savez pas où vous allez. Vous savez, l'âme ne se découvre que si on veut la découvrir. Vous allez dire, oh, c'est là, c'est pas objectif. Mais oui. C'est objectif parce que ce qui est intérieur ne peut se découvrir que de l'intérieur. Et le propre de la philosophie du vivant, qui commence par cette grande induction de la découverte de l'âme, ça ne peut se faire que si j'interroge. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme existe-t-elle? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un logos? Est-ce que c'est une réalité que je peux découvrir, que je porte en moi, qui se cache? C'est évident. S'il y a trop de bruit, s'il y a trop d'agitation, s'il n'y a plus aucune intériorité, s'il n'y a plus rien de qualitatif dans ma vie, et que je suis uniquement et entièrement dans le quantitatif, je ne saisirai jamais l'âme. L'âme se cache. C'est très curieux, ça. Vous voyez, l'induction reste objective, mais l'induction implique qu'on soit totalement engagé. C'est du reste le problème de la philosophie. Si on n'est pas engagé dans une recherche de vérité, et qu'on croit qu'on va découvrir tout comme ça, ça vous êtes donné dans un plat. Tout sera chauffé, vous n'avez plus rien à faire. Alors vous ne découvrez rien du tout. La philosophie, à la différence des autres sciences, des mathématiques, de la logique, la philosophie est une sagesse. Dès le point de départ, elle est une sagesse. Elle n'est pas sagesse uniquement au moment où je découvre l'existence d'un être premier. C'est sûr, à ce moment-là, elle s'épanouit, elle se dévoile. Mais dès son point de départ, c'est une recherche de la vérité, c'est une recherche de ce qu'est l'homme. Le propre de la philosophie, c'est rechercher ce qu'est l'homme et toutes les richesses qui sont dans l'homme. Or, quelle est la première richesse qui est dans l'homme? C'est l'âme, je crois. C'est la richesse la plus fondamentale. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas d'âme, il vous le dit, du reste. Il lui manque quelque chose. Ça devient un fonctionnaire pour tout, au carré. Complètement en dehors de sa personne. Je la cherche, je ne vois plus. C'est un robot. C'est un perroquet. Un perroquet, perroquet, c'est très intéressant, mais un homme perroquet, c'est pas drôle. Une régression. La quantité fait un regret, c'est une régression. Et c'est ça que j'ai souvent peur dans le monde d'aujourd'hui. C'est que nous avons une culture quantitative qui fait que progressivement, il y a une régression. Voyez, Bergson disait, notre monde, qui est de plus en plus scientifique, de plus en plus vers l'efficacité, tournait de plus en plus uniquement vers l'efficacité, est un monde qui aurait besoin d'une surâme. Il avait très bien senti ça. Que de fait, je crois, alors sur les chrétiens, c'est net, le démon n'a qu'un seul désir, c'est de faire que les hommes soient des robots, ses instruments, instruments d'une intelligence séparée, et soient là pour répondre quantitativement. Parce que le robot, c'est celui qui répond quantitativement. Alors, je reprends pour que vous compreniez, mais en montrant les points nécessaires. Pour qu'il y ait induction, il faut qu'il y ait interrogation. Vous voyez, ça se retrouve à tous les plans. Quelqu'un qui veut commencer une thèse en chimie, en physique nucléaire, si il ne s'est pas posé une hypothèse de recherche, ne trouvera rien. Si au contraire il a une hypothèse de recherche, il découvre quelque chose. Or, l'hypothèse à l'état pur, c'est l'interrogation. L'interrogation, c'est une intelligence qui veut avancer. L'hypothèse, c'est un chercheur qui veut avancer. Si vous dites à un chercheur, qu'est-ce que vous cherchez? Ah, je sais pas. Mais il ne cherche rien du tout. Or, s'il dit ce qu'il cherche, c'est qu'il a dans la tête une hypothèse. Il y a peut-être là quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose là. Je n'ai pas encore vu. Bien, mais il y a quelques petits signes. Voyez, un homéopathe, il cherche des signes. Bon, celui qui ne sait pas ce qu'il fait, il est curieux. Il prend des drôles de signes. Il interroge drôlement. Mais il a une hypothèse. Peut-être qu'il y a ça. Et en fonction de ça, il regarde si les signes normaux de telle maladie apparaissent. Il a une hypothèse. Bien, l'hypothèse fondamentale, c'est celle du philosophe. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Je veux atteindre la vérité. Or, pour moi, la première vérité, réalisé quelque chose, mais terriblement conditionné par son corps, terriblement conditionné par le milieu dans lequel il se trouve. Et plus, il a de finesse intellectuelle et de finesse du cœur, plus il est conditionné par le milieu. S'il dit, moi je suis conditionné par rien, ça m'est égal. Ça prouve que vous manquez complètement de sensibilité. Et si vous manquez complètement de sensibilité, je crains que vous ne soyez pas très intelligent. À la suite d'Aristote, saint Thomas le dit, l'être intelligent, carnes mollas, hein, avoir une chair qui ne soit pas celle de l'hippopotame. Parce que la chair de l'hippopotame, vous pouvez le toucher, il ne bouge pas. Il faut des gros coups pour que ça bouge. Thomas, il n'a une sensibilité assez grossière. C'est du reste pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'intelligence. Carnes mollas, un Thomas d'Aquin aussi spirituel que ça, dit que notre intelligence dépend de notre toucher. Est conditionné par notre toucher. C'est quand même très extraordinaire, ça. C'est le conditionnement. Et je ne le méprise pas du tout, ce conditionnement. Je l'accepte. C'est mon corps. Je pense à travers mon corps. Je me sers de mon corps pour penser. Mais je le dépasse. Celui qui dit, je me sers de mon corps, alors je reste, attention. Le corps, c'est un poids quantitatif. Il est qualifié, mon corps, dans la mesure où il est vivant. La vie apporte la qualité. La vie apporte la qualité. C'est pour ça que Mono, qui connaissait quand même quelque chose du vivant, n'hésite pas à dire, la vie n'est pas dialectique. Phrase qu'il a dite dans son petit livre qui a fait beaucoup de bruit quand ça a paru, Hasard et nécessité. La vie n'est pas dialectique. Et ça, c'est bien vrai. Elle est qualitative. Et la dialectique ne peut se réaliser que dans le domaine de la quantité. Eh bien, la qualité de la qualité, c'est l'interrogation. Parce qu'on devance. Chaque fois que vous interrogez, vous devancez. C'est peut-être ça. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'âme? Il faut voir toute la force de cette interrogation de Brigitte. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Monsieur le professeur, vous avez parlé admirablement du corps, vous n'avez rien dit de l'âme. Vous croyez que je suis heureuse? La petite enfant ne se retrouvait plus. Parce qu'elle avait une interrogation très forte que le bon professeur n'avait pas. C'est tellement normal de ne jamais plus parler de l'âme. L'âme, c'est pour les spirituels, mais pas pour les savants. Parce qu'il ne l'a jamais rencontré. Il ne l'a jamais rencontré au bout du scapel. Il ne l'a jamais rencontré au niveau de ses analyses philosophiques, analyses scientifiques. Donc l'âme n'existe pas. N'existe que ce que j'ai rencontré en tant que savant et en tant que savant de sciences biologiques. Autrement, non. Le philosophe dit non. Ah non, non, non. Il y a certaines expériences qualitatives qui dépassent toute la science biologique. La connaissance, l'amour, l'inspiration. Tout ça, c'est quand même le vivant qui vit pleinement. Vous voyez, l'art est très important dans une induction pour l'âme. Parce que justement, l'artiste crie dans un monde quantitatif. Il crie, espèce d'imbécile, vous ne voyez pas ce qu'il y a. Regardez. L'aspect qualitatif. Un artiste est toujours l'homme de la qualité. Le technicien est l'homme de la quantité. Et l'artiste est l'homme de la qualité. Le virtuose est un homme de la quantité. l'âme existe, elle est source de toute l'éternité. Et donc, c'est par la qualité que je vais la découvrir. Autrement, je ne la découvrirai jamais. Une méthode dialectique enfouit l'âme, parce qu'elle est quantitative. Une méthode inductive me permet de la découvrir. Alors, je prends exprès, pour mieux comprendre l'aspect qualitatif, les expériences les plus lointaines, le réveil. J'espère que ce matin, vous avez pensé à ça, hein, en vous réveillant. Ah, j'ai une âme. Et l'interrogation. Oui, quand vous vous êtes réveillé, c'est votre âme qui vous a réveillé quand même. C'est pas votre réveil. Pour beaucoup, c'est le réveil. Alors, le réveil m'a réveillé. Mais qu'est-ce qui vous a réveillé intérieurement? Le réveil est un petite gifle. Ne dors plus, il est temps. Quelque chose d'extérieur. Ce qui est important, le réveil, c'est l'âme qui s'est réveillée. On a vu cette force suffisante pour se lever. C'est le réveil de tout l'aspect biologique qui est en moi. Je suis réveillé. Et quand je suis trop fatigué, quand je suis trop malade, je dis non, je ne peux pas me réveiller aujourd'hui, je ne peux pas me lever aujourd'hui, c'est impossible. Expérience qualitative d'être éveillé. Expérience qualitative de la pensée, de l'amour. Expérience qualitative. Alors, ces expériences qualitatives de la passion, toutes ces expériences qualitatives me mettent en présence. Mon corps est habité. Il est habité, mon corps. Il y a quelque chose qui l'anime. De l'intérieur et qui l'anime de façon très diverse dans cette très grande diversité qualitative depuis ma vie végétative, depuis le réveil. Comment peut-il y avoir une réalité source de toutes ces activités aussi diverses? Cette réalité source de toutes ces réalités, c'est ce qui est premier dans la vie. Et c'est vrai, étant donné cette diversité, qu'est-ce qui est premier dans la vie, la source de la vie qui est en moi? Vous voyez, je la découvre à partir de l'interrogation. Qu'est-ce qui est à la source de toutes mes opérations vitales? Est-ce que c'est l'âme? Cette source de toutes mes opérations vitales qui se manifeste avec cette diversité de visages de ces opérations vitales. Cette source, c'est mon âme. Vous voyez, s'il n'y a pas l'interrogation, vous ne découvrirez jamais. Par l'interrogation, vous découvrirez progressivement quelque chose qui est radical, mais qui est présent dans toutes mes opérations vitales. Dans toutes mes opérations vitales, il y a une source. C'est le propre d'une opération vitale. Elle est immanente. Ce qui vient de l'extérieur n'est pas vital. C'est quelque chose qui peut m'aider à me réveiller. Mais ce n'est pas vital. Ce qui est vital, c'est ce qui vient d'intérieur. Ce qui est spontané, qui vient d'intérieur. Et donc c'est présent à toutes mes opérations vitales. Et la diversité même de ces opérations vitales, si diverses, me montre qu'il y a un fondement très radical, capable de répondre à toute cette diversité. Et en répondant à cette diversité, puisqu'elle est une source, elle maintient l'unité. Maintenir l'unité entre le petit déjeuner du matin et la contemplation, c'est quand même pas mal. ça fait une très grande différence qualitative. Mais il y a quelque chose de commun. Parce que c'est source d'opérations immanentes. Mais l'une implique un organe matériel, quantitatif. L'autre, non. C'est libre. C'est au-dessus. La pensée. La pensée peut penser la matière, mais la matière ne peut pas penser l'esprit. Ah, c'est curieux, ça. L'esprit peut dominer la matière, mais la matière ne peut pas dominer l'esprit. Je peux faire toutes ces constatations pour voir que la source de ces diverses opérations vitales, c'est ce que j'appelle l'âme. Vous voyez, le philosophe ne nomme pas l'âme tout de suite. Il découvre une source. Un principe immanent, une capacité d'opérer telle ou telle chose. Il dit, mais c'est ça l'âme. Vous voyez, il y a le mot âme qui lui est donné par la tradition. Alors, il doit redécouvrir cette source. Et l'ayant découvert, il dit, c'est bien l'âme. Donc, l'induction me permet de découvrir cette présence active, capable d'opérer un acte vital. Et cette capacité, je dis, c'est mon âme. Et je vois que tout de suite, mon âme a des capacités diverses. Parce que, avant même l'opération de me nourrir, de respirer, de m'éveiller, il y a quelque chose qui informe mon corps. Ses organes. Mon corps implique une très grande complexité. Et pourtant, il a une très grande unité. Alors, vous retrouvez au niveau du corps ce que vous avez découvert au niveau de la diversité des opérations. Une très grande diversité et cependant une unité. Et c'est vrai, mon corps est transformé, est déterminé, il devient un corps vivant. La différence entre le corps vivant et le corps cadavérique. Et le corps vivant implique cette détermination radicale et fondamentale de mon corps qui fait que ce corps a une vie propre et unique. Le sang de chacun a quelque chose d'unique. Et le sang, c'est va faire l'unité du vivant biologique. C'est par mon sang qu'il y a une certaine unité à travers tout mon corps. C'est pas mes nerfs, non. C'est mon sang. Le sang est versé. On sait très bien que quand il n'y a plus de sang et que le sang est versé, il n'y a plus de vie. C'est par le sang que mon âme agit. C'est pour ça que dans certaines traditions religieuses, l'âme, c'est le sang. Et le sang, c'est l'âme. C'est très beau. C'est le symbolisme de la vie. C'est le symbolisme de l'amour. Il y a comme une espèce de répercussion entre les deux. Là, vous voyez, l'induction philosophique et qualitative, elle me permet de remonter à la source de toutes mes opérations vitales. Et comment me permet-elle de remonter à la source de toutes mes opérations vitales ? En interrogeant, qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces opérations vitales ? Qu'est-ce qui fait que ces opérations vitales existent ? Qu'est-ce qui donne le caractère propre de ces opérations vitales ? Il y a une source commune que j'appelle l'âme. Le nom âme, progressivement, prend toute sa signification à travers l'expérience que j'ai de mes diverses opérations vitales. Et je vois à ce moment-là la profondeur qualitative de ces opérations vitales dans laquelle se trouve une présence. Et une présence qui n'est pas le corps. Une présence qui dépasse le caractère singulier et particulier de toutes mes opérations vitales, une présence d'une source, d'une capacité d'opérer. Et je vois tout de suite les deux extrêmes. J'ai en moi une capacité d'opérer qui m'apparaît comme au-delà aspect quantitatif. Alors ça, c'est le second moment. Et il y a deux moments qu'il faut bien distinguer dans cette induction de l'âme. Premier moment, il existe nécessairement une source unique de toutes mes opérations vitales. J'en ai conscience. Et cette source unique, je l'appelle mon âme. Deuxième moment, qu'est-ce que je peux dire de la nature de mon âme ? Qu'est-ce que je peux dire sur le caractère propre de mon âme ? C'est intéressant. Je vois que mon âme est liée à mon corps. Directement. médicaments pour informer mon corps et qui sont plus qualitatives et qui se manifestent à travers mes opérations vitales sensibles, affectives. Mon affectivité fait partie de ma vie, fait partie de mon âme. Mon âme est au-dessus de la distinction connaissance-affectivité. Mon âme est au-dessus de la distinction vie végétative, pure, vie sensible. D'abord, toute ma vie végétative est enveloppée d'une capacité du toucher, de contact vital, le toucher, qui permet de faire que toute ma vie végétative est la vie végétative d'un homme et pas d'un moineau. Pas la même chose. J'ai une vie végétative dont j'ai conscience. Je peux avoir mal au cœur, je peux avoir mal à tel ou tel organe de mon corps. Je dis. Et à ce moment-là, il y a cette chose très curieuse, ma conscience est comme entièrement mobilisée par tel ou tel organe qui prend tout. Quand j'ai mal à la tête, quand j'ai très fort mal à la tête, quand j'ai très fort mal au sinus, je suis comme mobilisé par ça. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus difficile de penser, parce que je suis mobilisé. Mon âme est comme saisie par ça. C'est le propre de la souffrance. La souffrance a ceci de très particulier, c'est qu'elle capte l'attention de façon prodigieuse. Si on ne pensait plus, ça, on n'aurait plus mal. Mais il y a une telle conscience à attirer, c'est curieux. Quand il y a une violence, un mal violent,